Bonjour à tous, vous êtes dans le podcast Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Donc le podcast, qu'est-ce que c'est ? C'est un format que vous avez déjà vu une fois sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivent sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur Radio Campus, c'est donc une nouvelle émission qui va arriver deux fois par mois. Donc vous serez, il y aura plusieurs diffusions je pense sur Radio Campus au cours du mois. Et ensuite pour ceux qui rejoignent l'émission en cours ou qui voudraient voir la rediffusion en vidéo, ce sera sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne c'est Jawai, J-A-W-A-Y. Donc voilà, bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui nous écoutent, que vous soyez à la maison, au travail ou en voiture. On va être ensemble pour à peu près une heure et demie. Donc voilà, on aura plusieurs petites chroniques. Je suis accompagné de Pierre à ma droite et de Dr Chon. Donc Pierre ce sera mes deux chroniqueurs qui seront là à chaque fois. Pierre qui est psychologue, psychanalyste, qui va nous faire des chroniques généralement psycho, sociaux, etc. Moi, je vous ferai généralement des chroniques sur la musique ou sur des sujets de société. Et Denis, qui nous fera des petites prises de parole de temps en temps, qui est rappeur.
Tu donnes le nom comme ça ? Ouais, t'es violent.
Ah, ouais, on prend. T'es là en tant que Dr Chon, du coup.
Oui, on prend les deux, on assume.
Ok, donc on va dire Dr Chon. Dr Chon, vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube aussi, avec qui j'ai fait des petits formats, un son une après-midi notamment.
Tout à fait.
Donc voilà, donc on est ensemble à la radio pendant une heure et demie, un truc comme ça. Plusieurs petits sujets qu'on va traiter ensemble. Et vous pourrez nous retrouver aussi sur YouTube. Et ben voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. Moi, je vais vous parler tout d'abord de la musique pour travailler. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter de la musique pour travailler, vous ? Quel type de musique vous écoutez pour travailler ?
Absolument. Moi, j'écoute de la synthwave.
Ouais, j'ai vu ça. Ouais. En ce moment, t'es sur la synthwave. J'ai expérimenté aussi. C'est vrai que c'est vraiment cool.
Alors moi, j'écoute pas de musique pour travailler, mais je crois que je fais de la musique pour travailler.
Ouais.
De petite différence. Mais non, du coup, je crois que j'écoute de la musique au travail, mais que la mienne, quoi. C'est pas très.
Ouais. Ok.
Pas celle des autres.
Ouais. Ok. Je vois. Donc moi je vais vous parler un peu de ça, alors quelle est la meilleure musique pour travailler. Donc il y a certains psychologues qui expliquent que la musique viendrait généralement parasiter certaines parties cognitives du cerveau et que le cerveau se synchronise vraiment très facilement avec la musique. C'est pour ça qu'on a tendance à marcher en rythme quand on écoute de la musique, etc. Et on peut également observer un effet stimulant de la musique sur le cerveau, mais plus pour les tâches répétitives, quand on doit faire le ménage ou ce genre de truc. C'est vrai qu'il y a un effet un peu dopant pour travailler, donc ça stimule le cerveau. Ça agit également sur le circuit de la récompense, donc tout ce qui va être lié avec la dopamine, l'endorphine, etc. Je pense que Pierre, tu pourras nous confirmer ça. Alors pour ce qui est de travailler, j'ai vu qu'il fallait privilégier les musiques sans paroles, parce que généralement, quand on réfléchit pour travailler, on a tendance à manipuler les mots dans notre tête. Donc si on a une musique avec des paroles, généralement, ces paroles-là vont venir parasiter le langage de notre pensée, en fait, et ça peut nous déranger plus qu'autre chose. Donc on va aussi parler forcément de la musique classique, parce qu'il y a eu plusieurs études qui ont montré que la musique classique pouvait avoir un effet sur tout ce qui est la concentration, la mémorisation, etc. Et pareil, encore une fois, il y a des études qui ont démontré que c'était bénéfique pour le cerveau. Et on va parler d'un cas relativement particulier que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu, c'est l'effet Mozart. Alors Mozart s'est considéré comme étant la musique parfaite dans sa composition, aussi bien dans sa composition que dans son écoute. Une petite anecdote qui est rigolote, c'est que Mozart, à l'inverse de ses autres compositeurs comme Beethoven, Chopin, etc., Mozart, lui, composait ses musiques en une seule fois. C'est-à-dire que Beethoven ou d'autres compositeurs avaient tendance à écrire, raturer, recommencer, etc. Mozart, lui, il écrivait tout en une seule fois et c'était parfait dès la première fois. Et ça, aussi bien pour ses derniers concertos, etc., que même les premiers quand il avait commencé ses premières musiques, quand il avait 5-6 ans, il avait commencé à écrire ses premières musiques, et c'était déjà parfait à ce moment-là. Donc au début des années 90, il y a une étude qui avait démontré à cette époque-là que écouter du Mozart pendant qu'on faisait un test de QI, apparemment, ça a amélioré les tests de QI de 9 points, ce qui est quand même assez important. Il y a même carrément à l'époque un gouverneur des États-Unis qui a voulu débloquer des fonds pour offrir des CD de Mozart à tous les enfants de l'État. Donc pour montrer à quel point ça avait influencé un peu les gens à cette époque-là. Depuis cette étude-là, il n'y a vraiment aucune étude qui a été vraiment dans le même sens que cette étude-là. Les autres études ont démontré que ça a augmenté de 1,5 point ou 2 points le test de QI, donc on n'est pas sur du 9 points comme l'avait dit la première étude, mais il y a quand même un petit effet de la musique classique. Alors par contre, là où les études ont été un peu plus sérieuses, c'est pour montrer que la pratique de la musique aidait à développer le cerveau. Chez les enfants par exemple, les enfants qui pratiquent un instrument ont généralement plus de facilité à retenir ou à apprendre de nouvelles choses parce que ça développe des parties du cerveau qui sont uniquement travaillées par la musique. On peut voir que c'est les mêmes parties du cerveau qui travaillent par exemple la pensée et le langage. Et voilà, donc apprendre une nouvelle langue par exemple, pareil, on aura plus de facilité à apprendre une nouvelle langue quand on pratique de la musique, qu'on a l'habitude de vraiment écouter de la musique, de développer son cerveau avec de la musique. Je vais vous parler d'un autre style de musique que moi j'ai découvert aussi en étudiant un petit peu le domaine, qui aide à travailler. C'est la lo-fi. Donc je sais pas si ça vous parle déjà, la lo-fi.
Bien sûr.
Un peu.
Ouais. En gros, la lo-fi, on voit généralement des playlists de 24 heures ou des lives YouTube où il y a la petite fille. Certains d'entre vous verront ça. Je vous mettrai un petit extrait pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Une petite fille qui écrit avec son chat à côté, un petit dessin un peu animé comme ça. C'est des playlists, des trucs qui sont pendant 24 heures en direct sur YouTube. Ça se fait de plus en plus. Donc la lo-fi, il faut savoir que les mecs qui ont inventé ce style, entre guillemets, ils n'ont pas fait ça n'importe comment. Le BPM, donc les battements par minute, donc c'est vraiment la rythmique, le tempo en fait du son. Ils ont calé le BPM de la lo-fi sur les battements du cœur. En fait, ils ont étudié ça pour que ce soit sur le même tempo que les battements du cœur, pour que ça soit ni stimulant ni relaxant en gros, pour que ça nous garde un peu sur un petit rythme voilà, sympa pour travailler. La lo-fi, donc pour expliquer un peu comment c'est fait, globalement c'est un peu du hip-hop, mais très doux, très calme. Ça va être caisse claire, kick, caisse claire, comme on a l'habitude de voir en hip-hop. Il y a souvent un grain qui est ajouté au son, on rajoute souvent en post-production le petit son du vinyle. On fait un mastering, donc le mastering, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la façon dont est traité le son avant qu'il soit terminé, quoi. Ils font généralement exprès d'avoir un mastering un peu étouffé, et on utilise régulièrement des instruments comme le piano ou la guitare qui vont nous inspirer un peu un climat de nostalgie ou de cocon, un peu c'est des sonorités qu'on a l'habitude de connaître et qui nous posent, quoi. Donc c'est souvent des petites mélodies comme ça, très sympa, le petit grain du vinyle derrière, un mastering un peu étouffé qui va nous donner un peu cette ambiance coin du feu en fait, et qui nous met bien, quoi. Ça nous met un petit cocon, voilà. Donc c'est hyper adapté pour travailler parce que ça prend pas le dessus sur notre réflexion. Il n'y a pas de paroles dans la lo-fi. Ce sont des longues nappes de notes. C'est pas des mélodies très complexes généralement. Et un beat, la batterie paraît très simple. Donc c'est du hip-hop mais vraiment très soft. Kick, caisse claire et une petite charlée de temps en temps pour dire deux. Mais c'est pas un truc très complexe qui va pas nous parasiter en fait. Donc voilà, je vais vous balancer un petit son de lo-fi que j'ai, une petite reco, voilà, que j'aime bien depuis un petit moment. Ça s'appelle L'Indécis, et le titre du son, c'est Soulful. Voilà, donc tout de suite, L'Indécis, Soulful. Thank you. Et on est de retour, vous avez écouté Soulful de l'Indécis. On parlait de la musique pour travailler, donc là je vous parlais de la lo-fi. Donc c'est vrai que je vous ai parlé de la lo-fi, de la musique classique pour travailler, mais c'est vrai que c'est principalement pour travailler quand quelque chose nous demande de la réflexion. C'est pour ça que je disais que ça, enfin, y a pas des musiques qui nous parasitent nos pensées dans la tête. Alors par contre, il y a d'autres façons d'écouter la musique pour travailler. Là je parlais vraiment des choses intellectuelles, on va dire, qui nous demandent de réfléchir quand on doit écrire quelque chose par exemple. Mais si vous faites un travail créatif, par exemple, là, il n'y a aucune limite. Si c'est pour faire de la peinture ou vraiment quelque chose qui demande d'être créatif, là, il n'y a pas de limite. Vous pouvez écouter n'importe quoi, de la trance, du hip-hop, ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît. Je vais vous faire quelques petites recommandations en plus. Là, je vous ai parlé de l'Indécis. Tout l'album est incroyable, hein. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aller écouter tout cet album-là, il est vraiment cool. J'ai quelques chaînes YouTube à vous filer qui ont vraiment de la lo-fi à profusion, avec aussi des lives 24 heures, comme je vous disais tout à l'heure. On a Chillop Records, qui est une grosse chaîne YouTube de lo-fi. On a The Bootleg Boy. Tout ça, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous mettrai ça en description, vous pourrez aller voir ça. The Bootleg Boy, pareil, lui, il a des sons, à la fois des sons, des singles. Il y a aussi des albums et aussi des playlists hyper longues, des trucs en direct pendant 24 heures, etc. Et enfin, Steezy As Fuck, pareil, grosse chaîne de lo-fi avec des centaines et des centaines de musiques lo-fi. Donc voilà pour la musique pour travailler, si vous avez quelque chose à rajouter, mes chers chroniqueurs.
Bah écoute, moi personnellement, en tant que rappeur docteur,
ouais.
J'ai une déformation professionnelle. Quand j'entends une musique sans paroles, ma seule envie c'est de mettre des paroles.
Ouais, ouais.
Donc techniquement, même si je mets ça en faisant du ménage, j'aurais envie de rapper par-dessus.
Ouais, ouais. Et si tu dois, par exemple, j'en sais rien, moi, écrire une lettre, tu vois, faire une lettre de, j'en sais rien, un CV, un truc qui te demande vraiment de réfléchir, de te poser, tu écoutes aussi des sons avec des paroles ou...
Non, en vrai, il n'y a que quand je fais des tâches qui sont désagréables,
ouais,
du moins que j'apprécie moins.
Des tâches ménagères.
Des tâches ménagères, ouais. Et compagnie, que j'écoute de la musique. Sinon, j'en écoute relativement peu. J'écoute de la musique par procuration, parce que j'habite avec des gens qui écoutent de la musique.
Ouais. Mais
personnellement, non, pas trop.
Ok. Et toi, Pierre ?
Y a plein de choses à dire sur le sujet. C'est vrai qu'en termes de cognition pure, c'est-à-dire en termes de ce qu'on pourrait dire de calcul du cerveau, de puissance de calcul du cerveau, la musique, c'est un parasite. Hein. Donc, on a tendance à écouter des musiques plutôt sans parole parce qu'en fait, le cerveau est capable de faire abstraction de cette musique.
Ouais.
Mais il ne faut quand même pas oublier que faire abstraction d'une musique, c'est déjà un travail pour le cerveau.
Ouais, c'est une tâche en arrière-plan.
Exactement. C'est comme quand tu conduis et que tu ne t'es pas rendu compte que tu conduisais, que tu arrives chez toi, tu as l'impression d'être téléporté. Mais en fait, non. C'est juste que tu l'as fait automatiquement.
Ouais.
Mais c'est pas pour rien. Enfin, c'est pas pour autant que ton cerveau ne va pas être fatigué de faire cette musique-là. Donc, en fait, la musique, oui, et parce que souvent, ça permet aussi de masquer le silence. Mine de rien, dans le silence, il y a plein de petits sons qui nous perturbent, qui peuvent nous angoisser aussi.
Ouais, quand on travaille chez soi, qu'on entend la route, par exemple, à côté, ou ce genre de trucs.
Voilà. Donc, c'est sûr que faire un calcul mathématique dans une boîte de nuit, c'est pas facile. Le faire dans le silence, c'est plus facile. Après, si tu vas dans une boîte de nuit et que tu mets de la lo-fi dans tes oreilles, c'est toujours mieux que le bruit de la boîte de nuit.
Ouais,
donc, en fait, la musique, oui, ça aide, mais en fait, pas tant que ça. En fait, ça aide surtout à couvrir le silence.
Et pour ce qui est des sons d'ambiance, genre sons de rivière, les gens qui écoutent le bout de la pluie ou de la mer, est-ce que pour toi, c'est pareil ou c'est plus simple peut-être de faire abstraction ?
À mon avis, tout ça, c'est des sons aussi qui sont là pour combler l'angoisse du vide, l'angoisse du silence. Ça, c'est des sons qui te font sentir moins seul, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est souvent des sons qui rappellent la vie. C'est la mer, c'est la nature, c'est les animaux.
Ok, je vois. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut se faire aussi pour travailler. Il y a pas mal de gens qui font ça, écouter des bruits. Moi, je sais que j'adore le bruit de la pluie et de l'orage. Mais ça me donne un peu envie de dormir, parce que souvent, j'écoute ça aussi pour me coucher le soir. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était pour vraiment couvrir les bruits extérieurs. Si j'entendais, je sais pas, mes voisins qui faisaient la fête ou le bruit de la route ou quoi, je mettais le son de l'orage pour couvrir un peu les bruits extérieurs. Et au moins, mon cerveau se cale sur un son, on va dire, linéaire. Là, le bruit de la pluie, c'est un bruit blanc, quoi, finalement. Donc, mon cerveau, il se cale là-dessus. Et du coup, j'arrive à me laisser partir, en gros, dans mon état de sommeil, quoi.
Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça a un effet tout à fait relaxant. Mais c'est comme c'est le principe de l'ASMR. Hein. Tous ces bruits qui viennent... finalement, qui nous rappellent aussi des bruits de... qui sont très proches de ce qu'on avait dans le ventre de notre mère quand on était gosse.
Ah ouais, okay.
Les bruits, tu sais, un petit peu crépitants, un petit peu étouffés comme ça.
Ouais, c'est ça, les bruits blancs, ouais. Même pour les bébés, c'est vrai que ça marche pas mal, les bébés qui pleurent, machin.
On se rend pas compte à quel point c'est bruyant l'intérieur du ventre d'une mère. Déjà, nous, notre ventre, on l'entend, alors qu'on est hyper loin de notre ventre.
Ouais.
Alors imagine quand t'es dans un ventre, c'est hyper bruyant.
Ouais.
Pour un enfant, c'est hyper bruyant. Non, non, vraiment, les voix, les bruits, le corps humain, le cœur.
C'est toute cette partie-là où justement il se prépare un peu à tout ça. Il entend un peu les bruits de la vie, il entend les voix de ses parents, la musique. Ouais.
Et c'est pour ça que t'as des enfants qui ont des prédispositions à apprendre une langue. Si quand il était petit, il a entendu sa mère parler portugais, même s'il habitait en France toute sa vie, il aura plus de facilité à apprendre le portugais, bien sûr.
Ok. Bon, bah écoutez, moi c'est la fin de ma chronique. On va passer à la chronique suivante. C'est tout simplement la chronique de Pierrot.
Oh, c'est à moi de parler. Voilà. Oh, c'est cool. Bon, déjà avant que je commence, merci. Et puis je suis hyper content d'être ici. C'est hyper cool.
Tu voulais envoyer un petit truc
J'attends un petit peu.
Ouais.
Un petit disclaimer avant. Pardon si je bafouille, si je cafouille, si je trifouille sur les mots. Parfois, je trébuche un petit peu sur les embûches du vocabulaire.
Non, mais ça va aller. On a une communauté bienveillante. Petit rappel juste pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, pour nos auditeurs à la radio. Je vous rappelle que voilà, c'est un podcast que vous aurez deux fois par mois et qui est aussi en rediffusion vidéo, en format vidéo sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Jawai, J-A-W-A-Y. Donc voilà, si vous arrivez en cours d'émission, vous voulez voir un peu l'intégralité de l'émission et en format vidéo, vous pouvez venir sur YouTube. Voilà, je te laisse Pierrot avec ta chronique.
Maestro.
Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir.
Mais lentement, mais peut-être sûrement, s'insinue dans la conscience des hommes le sens de la solidarité de leur destin, la volonté de réaliser les mêmes rêves, qui est de transformer cette terre vallée de larmes et de misère, en un lieu où les hommes pourraient vivre dignement.
Je rêvais de toi dans la nuit du 11 au 12 août.
Le vent se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre.
Est-ce que vous êtes perdu sur les ondes? Peut-être même que vous êtes perdu tout court? Ça tombe bien, nous aussi. En fait, si ça peut vous rassurer, on l'est tous. Venez, on va danser sur le radeau de la Méduse. On va bronzer sur la dune du sablier noir et plonger dans le ventre de la bête. Vous voguez sur Radio Campus Amiens à bord du podcast. Le navire sans autre blanche baleine que la sibylle d'argent. Ensorceleuse des mers les plus sages, des vagues valsantes qui effleurent les rivages. On est parti pour le premier épisode d'une série déjà culte. Ouvrez grand vos esgourdes que j'y susurre quelques mots d'amour, bande de vénards. Enfilez vos combinaisons de noctonautes, pyjamas et bouillottes. Aujourd'hui, on nage sous les paupières du monde. Ensemble, nous allons voir de nos oreilles comment l'animal parlant habite l'obscurité, de son inquiétante étrangeté à ses inavouables péchés. Bref, vous l'aurez compris, on va parler de la pièce maîtresse du grand théâtre de la nuit. J'ai nommé Le Rêve. Je m'appelle Pierre Lecomte Peters et je vous parle. Ça m'a toujours un petit peu embêté de dormir. J'avais l'impression de louper quelque chose, de l'ordre de ces grandes révélations que les étoiles distillent en leur lueur. Je crois que j'ai un peu peur de dormir, en fait. Peur de fondre dans l'inconsistance, au verso. Mais comme vous, je me suis réveillé où ? Je me suis réveillé ce matin. Arrêtons-nous une seconde. Arrêtons-nous une seconde pour sentir nos cœurs battre. Nos cœurs dans nos poitrines, ça fait du bien. Une petite pensée pour toutes les âmes qui ne sont pas réveillées ce matin. C'est 46 000 personnes qui marchent chaque nuit. C'est beaucoup, hein ? 46 000 bateaux sans voile, sans cap. D'ailleurs, à ce propos, je me demandais si les morts, ils avaient la radio. Vous pensez qu'ils ont la radio ?
Peut-être, ouais.
Ouais, je me suis dit que du coup, j'allais en Calédonie pour mon grand-père. Du coup, papy, si tu m'écoutes, je t'aime. Et je t'oublie pas. Je me suis dit, voilà, comme ça, c'est fait. C'est dingue comme souvent on oublie qu'une chose est absolument incroyable juste par habitude. La lumière, le temps, l'infinité des êtres qui travaillent en nous, autant de miracles que l'on ignore à tort. Le réveil en fait partie. En fait, le réveil, il commémore un peu notre naissance. C'est le grand voyage qui est là, et son vélo est fait de l'ange, de drap et de linceul. Finalement, on arrive toujours et on part toujours de la vie, enveloppé dans quelque chose. Un ange quand on est, un drap quand on se couche et quand on se réveille, un linceul quand on va dans un cercueil. C'est un peu triste, mais on est toujours enveloppé. C'est quand même dingue, cette habitude qu'on a. D'ailleurs, Enfin, souvent le matin se mêle à notre souffle des parfums d'accalmie, pareil à ceux qui succèdent les plus rudes batailles de notre existence. Et on est là, vaseux, heureux, vaguement amoureux et tendrement miséreux sur les chemins. Et puis c'est le flash mêlé à la perplexité. Alors que le soleil tentait une fois de plus de nous prendre à revers, nous, on rêvait. Les rêves sont vaporeux, leurs souvenirs nébuleux se dérobent immanquablement à notre gauche conscience. Partons du questionnement suivant, et qui est très important. Le rêve, c'est une question de l'autre en soi. C'est une question de l'autre qui parle en nous. Le rêve nous éloigne du contrôle. D'ailleurs, il nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres en notre propre demeure. Disons donc que si un maître sans sujet n'est plus un maître, eh bien un esprit sans corps n'est plus un être. On dit s'incarner d'ailleurs, du latin incarnare, ça veut dire rentrer dans la chair. Le rêve, ça soulève aussi la question de l'âme, et je me suis beaucoup posé la question. Et il y a beaucoup de cultures d'ailleurs où on se pose la question, cette question d'âme. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, le rêve. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est un truc qui existe en nous et qui parle en nous, et sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. On voudrait penser qu'on peut faire des rêves lucides, mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'un rêve lucide, c'est pas un rêve où on rêve qu'on contrôle notre rêve? J'en sais rien, moi. C'est quand même bizarre. Alors, je me suis un peu penché sur ce que c'est que le rêve, et j'ai trouvé des trucs hyper intéressants. En fait, il n'y a pas qu'en Europe, hein, bien sûr, qu'on s'intéresse aux rêves. Il y a plein de cultures où c'est hyper intéressant. Ils considèrent le rêve comme un voyage de l'âme. Par exemple, les Fela du delta du Nil, ils s'enveloppent la tête dans des rubans pour dormir parce qu'ils ont peur que leur âme, elle s'échappe. Encore plus incroyable, les Maasai en Afrique. Chez les Maasai en Afrique, il est interdit de réveiller brusquement quelqu'un parce qu'ils ont peur que son âme, elle n'ait pas le temps de retourner dans son corps. Déjà, c'est trop bien parce que c'est hyper poétique. Ouais. Et en plus, c'est trop bien parce que personne ne te réveille jamais. C'est trop cool. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas. Et en fait, je me suis posé la question aussi. Et en France aussi, on a une certaine pensée là-dessus. C'est qu'on a cette idée qu'on n'a pas le droit de réveiller un somnambule parce qu'il pourrait rester bloqué dans les limbes. Et c'est complètement faux, en fait. Ouais. On a cette idée comme ça qu'en fait, il y a quelque chose de mystique avec le rêve.
Ouais, qu'on est ailleurs et ici à la fois, quoi.
Ouais, c'est ça. Entre deux mondes. Comme si on voyageait dans les dimensions.
Ouais.
C'est assez incroyable. D'ailleurs, à ce propos, j'ai regardé qu'il y a une étude de l'IFOP. Et figurez-vous que 57% des Français croient aux rêves prémonitoires. C'est énorme, non?
57%?
C'est énorme.
Ok.
Ouais. Plus de la moitié des gens.
Plus de la moitié. Sachant que seulement 26% des gens croient aux voyants. Donc ça veut dire que deux fois plus de... Ça n'a aucun sens.
En fait, c'est une forme de clairvoyance à laquelle on croit, mais pas à d'autres, quoi. C'est ça qui est bizarre.
Ben oui, c'est hyper bizarre.
Ouais.
Hyper bizarre. Disons aussi que 14% des gens consultent des voyants. Donc en gros, dans les 26% qui y croient, il y en a 14 qui y croient vraiment. Ça veut dire qu'il y a 5 fois plus de gens qui pensent que les voyants, que les rêves prémonitoires existent, et 5 fois moins que les voyants existent. Enfin, ça n'a aucun sens, puisque un voyant, il pourrait très bien faire des prédictions à partir de rêves prémonitoires.
Ouais.
C'est bien qu'il y a quelque chose quand même d'un peu mystique qui nous fascine. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Je suis persuadé que ça fait partie des grands mystères de l'humanité qui ont mené aux religions. Et d'ailleurs, dans les religions, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de moments de la religion où c'est des anges qui viennent parler en rêve aux prophètes, à Marie aussi. C'est exactement pareil.
Des apparitions.
Tout à fait. Exactement. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Le rêve, c'est aussi le désir. Et c'est incroyable parce que le rêve, il est tellement teinté de quelque chose de positif qu'on en a fait un mot contraire. Le rêve, par exemple. On dit un mauvais rêve ou un bon rêve. On est d'accord.
Ouais.
On dit aussi une bonne journée ou une mauvaise journée. Pourquoi est-ce que le rêve, il y a un mot qui existe qui dit rêve et il y a un mot qui dit cauchemar? Enfin, c'est le seul mot qui a un antonyme comme ça alors que ce n'est pas un adjectif. C'est bizarre. On dit une bonne journée, une mauvaise journée. On ne dit pas une bonne journée et un cauchemar.
Non, mais on dit une journée de merde.
On dit une journée de merde. Mais je veux dire qu'en soi, le mot a été teinté. Enfin, on a été obligé. On l'a tellement teinté de quelque chose de positif. C'est-à-dire, c'est le rêve, c'est mon rêve. Qu'on a été obligé d'inventer un autre mot pour dire que le rêve peut aussi être mauvais. D'ailleurs, en parlant de cauchemar, ça vient du picard, cocorico, et du bas néerlandais. Cauchemar, ça se divise entre coq et mar. Coq qui vient du picard, qui veut dire pressé, foulé, Et Marc vient des Maras, c'est un fantôme scandinave qui vient nous visiter la nuit. Et en gros, l'image, c'est que ce serait une femme qui viendrait s'asseoir sur nous, sur notre poitrine, et qui nous étoufferait, un fantôme qui nous étoufferait pendant la nuit.
Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens qui font des terreurs nocturnes, c'est souvent cette impression-là qu'ils ont, c'est que quelqu'un vient sur eux et les empêche de se réveiller, les empêche de respirer, etc. Donc c'est marrant, tu vois, qu'il y ait ce truc-là, ce lien-là, déjà, avec l'étymologie du mot, quoi.
Ouais, exactement. Et alors, je me suis encore plus penché sur le rêve, et je me suis dit, pour aller plus loin, est-ce que finalement, tout n'a pas été rêvé dans le monde ? Enfin, je veux dire, vu que le rêve est vraiment... Enfin, c'est une porte d'accès incroyable vers le cerveau humain, je me demande si tout n'a pas été rêvé. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas possible, finalement, que chaque invention qui était déjà faite ou qui va être faite un jour n'ait pas été déjà rêvée déjà aujourd'hui ?
Ouais, même tout ce qui est créatures mystiques, les licornes, les trucs comme ça, les centaures, tu vois, tous ces trucs-là, parce que c'est vrai que c'est une grande part de flou, quand même, le rêve. Même aujourd'hui, on sait pas encore vraiment dire ce que c'est, d'où ça vient, il y a plein d'hypothèses, mais... chez les psychologues et tout ça, enfin les neuropsychologues, etc., c'est vrai que c'est quand même une grosse part d'ombre, quoi. On sait toujours pas vraiment dire ce que c'est, les rêves, pourquoi on rêve. Moi, j'avais entendu aussi que il y a des gens qui disent que les animaux n'ont pas de subconscient, tu vois. Les chiens, les chats, mais alors pourquoi ils rêvent aussi, les chats et les chiens, tu
vois ? Ouais, c'est vrai que c'est une grosse question.
Bah ouais, tu peux voir ton chien, il court, tu vois qu'il dans son sommeil, il court, il gémit, il a les yeux qui bougent et tout, donc il rêve clairement, le chien, tu vois, alors qu'on dit qu'ils n'ont pas de subconscient. Donc comment c'est possible qu'ils fassent des rêves sans subconscient, tu vois ?
C'est complexe.
Ils n'ont pas conscience de la mort, mais par contre, ils peuvent rêver. Donc, ils peuvent rêver qu'ils sont en train de courir après un lapin ou je sais pas quoi. Enfin, on ne sait pas de quoi ils rêvent, les chiens, mais en tout cas, on voit qu'ils rêvent, quoi.
On souffre beaucoup du fait que les animaux n'aient pas accès au langage, en vérité.
Ouais, ouais.
Ce qui différencie l'homme des autres animaux, et je veux dire que ce qui différencie l'homme animal des autres animaux, c'est précisément cette capacité de faire des rêves en tant que langage.
Il n'y a pas la conscience de la mort aussi ?
Chez les animaux ou chez les hommes ?
L'homme n'est pas le seul animal qui a conscience de la mort ?
Ça, c'est ce qu'on pense. Mais...
C'est vrai qu'il n'y a personne pour le...
On a tous vu une vidéo de chien qui fait semblant d'être mort quand tu lui tires dessus. Je pense qu'il capte
oui,
très
non,
bien.
Oui, puis même, il y a des trucs où il y a des animaux qui s'en vont mourir, tu sais, quelque part. Ils vont se caler dans un coin, ils vont mourir dans une haie ou derrière un cagibi. Tu sais. Il y a pas mal de trucs comme ça où les animaux sentent qu'ils vont mourir. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la conscience toute leur vie. Tu vois. Je pense qu'ils sentent sur l'instant en mode « Oula, je ne vais pas bien, je crois que je vais mourir ». Mais je sais pas si déjà petits ils se disent. Enfin, tu vois, je crois pas. Hein.
Peut-être que c'est inscrit en eux, c'est possible. Franchement, j'en sais rien.
Ouais, il y avait aussi des tests qui avaient été faits pour voir si les animaux avaient la conscience d'eux-mêmes. Tu sais, où on avait mis une pomme, on met une pomme sur la tête d'un éléphant et on le met devant un miroir. Et je crois qu'il y a que l'éléphant et le dauphin qui a conscience de son reflet.
Ah oui, le jeu du miroir.
Où ouais. Il se voit dans un miroir, il voit qu'il a une pomme sur la tête et hop, il va aller l'attraper sans même la voir en direct ou en vue directe, il la voit dans le miroir. Et je crois que de souvenir, il n'y avait que l'éléphant et le dauphin qui avaient cette conscience de lui-même.
Oui, c'est fort possible.
Moi, je trouve ça très intéressant de mettre un dauphin devant un miroir.
Ouais, c'est vrai que le mec a eu l'idée déjà.
Il est
incroyable.
Ouais.
Il est incroyable. Ah, d'autres petits facts. Savez-vous que Frankenstein, ça a été écrit à partir d'un rêve de Mary Shelley. Pareil pour Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Autre petit fact aussi, Yesterday de Paul McCartney. A été écrit à partir d'un rêve. Alors, la petite histoire, c'est qu'il a rêvé de Yesterday. Il s'est réveillé, il l'a composé comme il a pu, mais il galérait un petit peu à retrouver les accords. Enfin bon, il a quand même réussi. Et ensuite, il s'est dit, c'est sûr et certain, je l'ai entendu quelque part, je l'ai oublié, je l'ai re-rêvé, et là, je suis en train de faire du plagiat sans m'en rendre compte. Donc, il a passé hyper longtemps à l'amener à tous les producteurs qu'il connaissait et à tous ses amis en leur disant...
Est-ce que ça existe
est-ce que c'est... Et tout le monde lui a dit non, donc il a fini par la sortir.
Okay.
C'est dingue, hein.
Ouais, c'est fou.
Il aurait pu se googler quand même.
Ouais, il aurait pu. Pareil pour Einstein, hein. La plupart de ses découvertes, en fait, elles sont parties de cette intuition qu'il a eue en rêve un jour. Il a rêvé qu'il descendait une piste en luge et qu'autour de lui, la lumière se distordait. Et ça vient de là. Pareil pour Bohr, le père de la physique quantique. Il a rêvé de la structure de l'atome. Il travaillait sur l'atome. Et une nuit, il a rêvé de la structure de l'atome. Et c'était la bonne structure. C'est quand même incroyable.
Ouais, j'avoue que c'est fou. Hein.
Bon, après, il avait peut-être maturé dans sa tête. C'est pas probable.
Après, il y a le lien aussi avec la méditation. On peut faire un petit... Il y a des gens qui, à travers de méditation, voient des choses, ont des espèces de clairvoyance où ils voient, j'en sais rien, des constellations et trucs comme ça. Et ils ont des infos. Et après, ils vont vérifier et il s'avère que c'est vrai, quoi. Donc, il y a aussi un petit lien. Tu vois, est-ce que quand on médite et quand on rêve, est-ce qu'on va pas un peu... dans le même endroit, tu vois, dans cette espèce de...
Il y a quand on prend du LSD aussi que ça fonctionne.
Bah ouais, il y a un lien, il y a un truc où on va un peu dans les... je sais pas, dans le subconscient, on va quelque part en fait, tu vois.
C'est peut-être qu'on enlève un filtre.
Ou l'hypnose, pareil, tu
vois. Oui, mais c'est parce qu'on va directement chercher à la source, je pense, sans qu'il y ait le filtre de la conscience qui agisse. On dit le surmoi en psychanalyse.
Parce que c'est ça, qu'est-ce que c'est vraiment, quoi ? Est-ce que c'est des flashs d'une vie antérieure ? Est-ce qu'on a accès, je sais pas, à un monde parallèle ? Est-ce que, tu vois, c'est tout ça en fait, c'est toutes ces questions-là qu'on sait pas vraiment. Puis il y a des trucs que les scientifiques aiment pas trop non plus, tu vois, parler de ce genre de trucs. Tu vois, c'est un peu comme parler de religion en fait pour eux, tu vois.
C'est hyper complexe parce que finalement, le rêve, on peut peut-être considérer ça comme un accès peut-être total ou en tout cas inconscient à l'ensemble des souvenirs qu'on a et qui sont pas forcément auxquels on n'a pas forcément accès quand on est éveillé. Mmh. Hein, il faut savoir que le cerveau, il retient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le premier rôle du cerveau, est-ce que vous savez ce que c'est ?
Absolument pas.
C'est pas les fonctions.
La première fonction de la mémoire, par exemple. Vous la connaissez ?
C'est la transmission du.
Non,
du...
la première fonction de la mémoire, c'est oublier.
Okay.
Parce que si tu n'oublies rien, tu deviens complètement malade. Il y a des gens qui sont hypermnésiques, mais hypermnésiques à la mort. Et ils deviennent complètement. En fait, c'est une surchauffe. Tu ne peux pas vivre comme ça.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu vas en oublier 50%. D'ailleurs, quand tu te réveilles d'un rêve, tu oublies automatiquement 50%. Et au bout de 10 minutes, 70%. Le cerveau est codé comme ça pour se souvenir des choses et en oublier une grande, grande partie. Imagine si tu lisais un annuaire et que tu pouvais le résister juste après. Comment dans ta tête, ce serait le bordel au bout d'un moment.
Ah ouais.
Mais déjà, il y a des gens, c'est ça.
Moi, je me fais souvent la réflexion, c'est du nombre de codes et de numéros qu'on connaît, quoi.
Et c'est incroyable.
Ça, c'est un truc de fou. Quand on réfléchit, le nombre de numéros qu'on connaît, numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, des mots de passe de sites d'internet, de trucs, la plaque d'immatriculation de ma voiture, quand on fait gaffe, on a des numéros, des codes, des trucs comme ça, on en connaît, mais des centaines, quoi.
Des centaines. Sans parler des odeurs, sans parler des visions, des couleurs,
ouais,
des sensations. Et ça, il y en a beaucoup aussi. Hein.
Ouais.
Et on est des banques de données. Donc finalement, peut-être que le rêve, c'est aussi ça.
Est-ce qu'on oublie vraiment ou est-ce que c'est dans un tiroir très profond ? Parce qu'il y a des trucs, comme on en a parlé la dernière fois, de quelqu'un, la meuf qui est tombée dans le coma, elle s'est réveillée, elle parlait couramment, elle parlait allemand couramment, alors que la meuf n'est pas du tout allemande.
Non, pour moi, c'est deux sujets différents.
Ah ouais ? Parce que oui, pour moi, c'est des trucs qu'elle a vraiment appris à un moment, mais qui sont très, très, et qui sont enfouis très très loin. Et avec un traumatisme, un truc comme ça, son cerveau, paf, il a fait pop un tiroir... caché dans son cerveau et t'as tout qui est remonté. Les mecs disaient en fait c'est juste tous les trucs d'allemand qu'elle a vu au cours de sa vie, les pubs, les trucs qu'elle a vu à la télé, les 2-3 cours d'allemand qu'elle a eu au lycée, etc. En fait c'est pas qu'elle l'a vraiment oublié, c'est que c'est enfoui très très loin. Et c'est pour ça que des fois avec des trucs d'hypnose, etc., on peut débloquer des trucs. Les gens ils ont un traumatisme et ils se rappellent qu'ils ont été abusés étant petits ou qu'ils ont vécu un truc de ouf étant petits alors qu'ils en avaient aucun souvenir, et juste par l'hypnose ou par un travail psychologique on arrive à débloquer des souvenirs comme ça qui était juste enfoui en fait.
Ah bah, le rêve c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être cet accès inconscient à tout ça.
C'est comme quand on dit quand on croise un inconnu dans notre rêve, en fait moi j'avais vu qu'on c'était pas vraiment un inconnu, que c'était quelqu'un qu'on avait croisé un jour dans la rue comme ça, et que notre cerveau juste il a print oui. Dans un coin, il l'a enlevé, puis au cours d'un rêve, hop, il a fait revenir en fait.
Oui, ouais. Il a condensé, c'est possible, ouais, aussi de mettre les yeux de quelqu'un, la bouche de quelqu'un d'autre. Enfin, ouais, le cerveau n'invente rien.
Ouais, c'est ça. On ne crée pas les choses, c'est juste des trucs qu'on a croisés une fois dans notre vie et que notre cerveau fait remonter.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Enfin, voilà pour le rêve.
Ok, bah, c'était une super chronique, ce petit monologue du début avec la
tout
musique.
Tout à fait.
Sachez aussi que certaines personnes ne rêvent qu'en noir et blanc. On pense que c'est à cause des films. C'est okay. Souvent des gens qui sont nés dans les années 60.
Ah ouais.
Ouais.
Et il y a la fantasy, ça te parle ou pas la fantasy ?
Non.
C'est Étoile, pour ceux qui connaissent le streamer Étoile, il y a Afantasique, un truc comme ça. Et en gros, c'est les gens qui peuvent pas imaginer les objets. Genre, le gars il est là, tu lui dis ferme les yeux, imagine une pomme, impossible. Il peut pas visualiser des objets dans sa tête, mais par contre, il rêve la nuit, tu vois.
Oui, c'est l'imagerie mentale.
Ouais, et ça c'est pareil, je trouve ça trop trop perturbant, quoi. Comment ça s'explique ?
Ouais, c'est vrai.
Le gars, il peut pas imaginer de choses dans sa tête, quoi. Il peut pas.
Mais souvent, quand on veut ça, il y a beaucoup de tests psychologiques justement. Quand on veut savoir l'état psychologique d'une personne, on fait pas mal de tests imagerie mentale comme ça.
Bah, le triage mental aussi. Le test de Rorschach, c'est un peu ça, non ?
Non, c'est un test de projection. Le test de Rorschach, c'est pas exactement pareil. Et puis, ça n'a pas été vraiment, scientifiquement, on n'est pas sûr de ce test. Hein.
Eh ben merci Pierrot, c'était une super chronique.
De fou, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que je sortirai de cette chronique beaucoup plus intelligent que j'étais venu.
J'espère que ça vous a plu. Je suis content si ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé pour
non,
le coup.
Non, ça a été. J'espère que ça vous a plu aussi pour ceux qui nous écoutent à la maison, au travail ou en voiture. Et pour ceux qui regardent ça sur YouTube, Pareil, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un peu si vous avez des anecdotes de rêve ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à venir avec nous. On répondra à tous les commentaires, évidemment. Petite pause en musique avant d'attaquer la minute du Dr Chon. Je vais vous balancer un petit son voilà, que j'écoute depuis un petit moment. Donc ça va être Liasa de Cela. C'est une artiste mexicano-américaine qui vivait au Canada.
Quel bonheur.
Elle chantait en anglais, en espagnol et en français. Elle est décédée en 2014 à l'âge de 37 ans après avoir combattu un cancer du sein pendant près de 2 ans. Voici donc Des Cara a la Pared de Liasa de Cela.
C'est parti.
Voilà, c'était Liasa de Cela, Cara a la Pared. Vous êtes en train d'écouter le podcast qui va être deux fois par mois, nouvelle émission sur Radio Campus. Merci à eux pour l'accueil. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission et que vous voulez voir l'entièreté de l'émission, vous avez donc raté une chronique sur la musique pour travailler et une chronique sur le rêve de notre ami Pierrot. Donc si vous voulez voir l'intégralité de l'émission, vous pouvez également aller sur YouTube, sur ma page, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Jawai, J-A-W-A-Y. Voilà, vous êtes de retour donc dans le podcast et nous allons maintenant avoir la minute du Dr Chon qui est parmi nous.
Ok.
Dr Chon, c'est à toi.
Bah, je pense que ma minute, ça va peut-être être 2 minutes ou 3 minutes, j'en ai aucune idée puisque c'est ma première chronique et que je l'ai écrite hier soir.
Allons-y.
Pas de jugement, messieurs. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je fais une chronique à la radio et vous m'avez laissé carte blanche. Alors voilà, j'ai écrit ces mots cette nuit. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai énormément réfléchi à un thème léger, agréable, et je me suis dit quoi de mieux pour une première que de vous parler du conflit israélo-palestinien.
En toute légèreté.
Ou palestino-israélien, je ne sais pas pourquoi on le dit toujours dans un sens et pas dans l'autre.
C'est vrai.
En fait, pas du tout, c'était une blague à moi-même, j'ai beaucoup d'humeur vers 2h du matin, et je vais éviter de créer une manifestation de sionistes en colère devant les locaux de Radio Campus Amiens. Non, en fait, il faut savoir que là, actuellement, je sors tout juste de 10 jours de maladie intense. Ça explique ma toux intempestive et le fait que je me balade avec un rouleau de PQ en guise de mouchoir. Voilà, j'ai attrapé un virus moyenâgeux qu'on appelle Corona quelque chose. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler.
Vaguement, ouais.
D'ailleurs, je suppose que c'était ça, dans la mesure où je me suis auto-diagnostiqué.
Là, t'es docteur Chon, finalement.
C'est un privilège de docteur compétent, tout à fait. Et je me suis dit qu'en tant que médecin traitant, j'allais commencer cette chronique par un point santé.
Ah, allons-y.
Quelle introduction.
Le point santé de docteur Chon.
Absolument. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que déjà, on est probablement plus souvent en bonne santé que malade, mais il n'y a que quand on est malade qu'on capte à quel point c'est agréable d'être en bonne santé.
Ah, c'est vrai ça.
Ah ouais.
Pour les dents aussi.
Tout à fait. Ouais. Après, je suis docteur, pas dentiste. Moi, par exemple, dans la mesure où je tombe jamais malade, j'avais oublié la notion de bonne santé. Dans ma tête, c'est devenu un acquis. Genre jamais je me réveille le matin et je me dis « Putain, c'est vraiment incroyable, je me sens en bonne santé. » Parce que dans mon esprit, c'est normal. Alors que c'est pas normal de trouver ça normal. Tu captes ?
Ouais, c'est vrai.
La santé, c'est un peu notre super pouvoir. Seulement, on s'en rend compte que quand on attrape une kryptonite aiguë ou quand on chope un cancer des testicules. Celle-là, je la dédicace à mon grand-père. Repose en paix, papy. Non, en vrai, je pense qu'on devrait prendre plus le temps d'apprécier sa santé et de l'apprécier sans forcément attendre d'être malade. Parce qu'en fait, la santé, c'est un peu comme la notion de vacances. C'est parce qu'il y a l'école ou le travail qu'on apprécie les vacances.
C'est vrai.
Et tout le monde aime être en vacances. Mais si tu retires le côté contraignant, bah les vacances, elles durent tout le temps. Et ça s'appelle plus des vacances, ça s'appelle du chômage. Et c'est tout de suite beaucoup moins fun. Voilà, c'était le Dr Chon. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. Et à très bientôt.
T'es un tueur.
Oh là là, merci Dr Chon. Pour cette carte blanche, cette première carte blanche dans l'histoire du podcast. Ouais. C'était vraiment trop, trop cool. Nous avions un invité qui n'a pas pu venir, donc on vous le réserve pour la prochaine émission. Donc, pour ceux qui n'en voient encore, vous êtes dans le podcast sur Radio Campus et sur YouTube en rediffusion vidéo. Pour terminer cette petite émission, comme à chaque fois, je vais essayer de vous préparer un petit jeu, voilà. Donc en lien avec la musique ou pas, mais bon, vu que la musique c'est mon dada, je vais quand même essayer de tourner ça autour de la musique. Vous pouvez jouer aussi avec nous, ceux qui nous écoutent à la radio ou sur YouTube, n'hésitez pas, faites pause sur la vidéo et n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Je vais tout simplement vous demander, on va essayer de se replonger un petit peu dans des années anciennes. On va essayer de vous replonger dans l'année 2014. Alors j'avais envie de rechoper des petits faits marquants de l'année 2014, mais j'avoue que j'ai oublié. C'était pour nous. 2014, c'était quoi, la Coupe du Monde? Il y avait une Coupe du Monde 2014, je crois.
Waouh!
Wow. Oui, Euro 2016, donc Coupe du Monde 2014.
Probable.
Je crois que c'est là où on s'est fait éclater, non?
Oui, de France, pas notable.
Ouais. Il me semble notable. Que c'est ça. C'est pas la Coupe du Monde, il y a eu le 7-1 Brésil-Allemagne. Je me souviens qu'on avait regardé ça au bar.
Probablement.
Donc voilà, c'est le seul fait marquant que j'ai là en tête de l'année 2014. Voilà, on va essayer de se replonger dans l'année 2014 et je vais tout simplement vous demander le top 10 des chansons les plus écoutées en France en 2014. Est-ce que vous avez une idée ?
Bon, déjà, si c'est une année de Coupe du Monde, peut-être qu'elles sont de la Coupe du Monde.
Ah, j'avoue que c'est une belle...
Non ? Est-ce qu'il est dans la
Je
dans
crois
la
pas, non. Non, non. Ouais.
Wow. Ah, c'est ouais. technique. Hein.
C'est très, très technique
parce que je suis sûr qu'il y a un gars qui a pop à ce moment-là et qui a disparu juste après, comme à peu près toutes les musiques qui arrivent dans le top 10.
Qui a sorti, genre, tu veux dire, un tube et...
Exactement.
Je me demande si c'est pas le début de la trappe.
Non. Je crois non. que ça arrive un peu plus tard.
Par
non.
contre, c'est pas bête, il y a forcément du rap en 2014.
C'est sûr.
C'est sûr, sûr qu'il y a un morceau de rap, on va dire un booba, parce qu'il est tout le temps dans les top 10 de quelque chose.
Alors, déjà un premier indice, si vous voulez, il y a un seul artiste français dans le top 10.
Et c'est Caris ?
Non. Ah. Et c'est pas du rap.
Et c'est pas du rap.
Ouf. Déjà, ça va être dur. Réfléchissez aux artistes français les plus écoutés dans le monde. C'est des artistes électro.
Ah, mais c'est David Guetta.
Non.
Ok, parce que moi j'allais dire Jean-Jacques Goldman.
C'est l'autre. Dit, Il y a David Guetta et
Martin Solveig.
Non.
Ah non. Et DJ Snake.
Un duo très
Daft cool, Punk.
Bah ouais, Daft Punk.
Avec Pharrell Williams.
Avec Julian Casablancas.
Oh là là.
Est-ce qu'on peut se mettre un petit extrait vite fait ? C'est le top 10. Daft Punk et Julian.
Ah ouais.
Voilà. Voilà notre top 10, c'est, je ne sais pas si ça vous a rafraîchi un petit peu la mémoire de cette année 2014.
Un petit peu, mais c'est très très lointain.
Pas du
là.
Tout.
C'est chaud, hein.
Pas du tout,
ouais, c'est très, très 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 dur.
Ensuite, on a encore de l'électro, et après, c'est, ouais, c'est, en fait, c'est quasiment, c'est que des artistes américains, en fait. Hein. Est-ce que vous avez un autre petit...
Un autre guest ?
Ouais.
Comment elle s'appelle, celle sur un boulet, là ? Non.
Non, c'était Miley Cyrus.
Ouais, c'est pas cette année-là ?
Non, par contre, Sia, elle est dedans.
C'est très fort.
Sia, elle est dedans, c'est top 6 avec Chandelier, tout simplement.
Je sais pas, je connais pas.
Mais si, je vois.
Ouais. Ça te parle, ça ?
Non, je connais pas.
Ah. Voilà le top 6, Sia, Chandelier. Ensuite, on va mettre un petit extrait du top 9. Pour voir si ça vous parle.
Est-ce qu'il y avait un Eminem ?
Top 9.
Oh.
Est-ce que ça vous parle ça ?
Ah oui, bah oui. Oui. Mais j'ai oublié le nom.
Moi, j'avais pas le nom du tout. Hein. J'ai le son, je connais, mais...
My Face Around the Water.
C'est très M6, je trouve, tu sais.
Ouais, ça fait...
Ça fait très... Je recherche appartement ou maison,
c'est vrai.
Tu sais.
L'appartement de vos rêves. Avec une cuisine aménagée qui donne sur la tour Eiffel.
C'était Mr. Probs et le son s'appelle Waves.
Encore une musique qui ne va pas marquer l'humanité.
Non, bah elle a marqué l'année 2014, c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Nous, on n'a rien marqué du tout.
Non, moi, j'ai rien marqué en 2014. Mm-mm.
Mais je l'utiliserai pour ma prochaine chronique.
Ouais.
Une chronique sur l'immobilier.
Ensuite, si je vous mets le top 8, est-ce que ça va vous parler ? Moi, je crois pas.
Ah, non. Stand by me.
Moi, ça me parle de fou.
Nanana. Ouais, si je l'ai. Mais je sais plus le nom. Guess it's true,
I'm not good, I don't want it. Non, personne a le nom. Hein. Franchement, c'est celui qui a le nom.
Non, c'est Jason Brunner.
Vas-y, mets-la au milieu du son. Le refrain, il est hyper.
Non, mais
cool.
Je vois le refrain. Mais juste...
C'était
non, mais j'avais tenté aussi ça.
Non, c'était George Ezra. Le titre, c'est Budapest. C'est Sam Smith. Hein ? Ça, c'est Sam Smith. Ah ouais ? Ah bah non, bah c'était bien, c'était With Me, alors je me suis trompé. Mais
bah oui, je l'avais dit.
C'était quoi le top 8 ? J'ai dû me gourer dans les. Top 8, Sam Smith, 7, George Ezra. J'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Bah du coup, balance George Ezra. Du coup, ça c'était top 7, et voici le top 8.
Oh, bah du coup, tu viens de nous dire le titre.
Bah oui, George Ezra, Budapest.
Bah oui. Ouh.
Ah, c'était ça les ouf.
Ok. Bah, oui. Si vous avez un groupe de rock et vous cherchez un chanteur.
Malibido.
Et moi c'est fou parce que je voyais ça beaucoup plus tard que ça. Je sais pas pourquoi. Ou alors c'est que ça me met un vieux coup de pelle dans la gueule quand même.
Non.
Ça me met un petit coup de vieux quand même, non?
Ouais, un petit coup de vieux, ouais.
Ça fait presque 10 ans quoi.
Est-ce qu'il lui dit vraiment Malibido ou c'est une pareille idolie?
Malibido. Non, je crois que j'en sais rien. Non, je lui dis pas Malibido, non. Non, non. Malibido, je crois qu'il dit Malibido, un truc comme ça.
Quand est-ce qu'on fait un épisode sur les pareilles idolies?
Ouais, carrément. La pareille idolie, c'est un bon sujet. Comme ça, je pourrais mettre des extraits aussi de pareille idolie. Donc, nous avons 6, 7, 8, 9, 10. Il nous manque le top 5. Le top... C'est sûr qu'il y en a au moins 2 que vous pouvez trouver.
Non, franchement,
un groupe. Ouais, mais comment vous donner des indices aussi sinon, je vous donne le titre et pas l'artiste.
Vas-y.
Le top 5, le titre, c'est Liar Liar.
Non.
Non. Je vous balance un extrait.
Vas-y.
Oh non. Ça me fait mal aux oreilles.
Moi c'est fou, j'en avais aucun quoi.
C'est que de la soupe en fait. C'est ça, c'est que de la soupe.
Et puis j'ai l'impression que...
Toi c'est... tu veux froisser les auditeurs de Radio Campus Amiens.
Non, désolé.
J'ai l'impression que c'est que des sons où tout le monde fait ah mais oui, tu vois, genre c'est des sons qu'on connaît, mais pas en ressortir le nom du gars. C'est impossible.
Mais oui,
quoi.
Parce qu'ils appliquent juste une. Voilà, un système de son. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, quoi.
On en revient au début de la chronique où c'est de la musique que tu écoutes pendant tes tâches ménagères. Hein.
Mais c'est juste une popote avec toujours les mêmes accords. Forcément, tout se ressemble.
C'est musique de radio, quoi.
C'est nul.
Après, ça tombe bien, on est à la radio. Donc
Non. On est à Radio Campus. On est le dernier bastion de liberté de la musique française.
Top 4, le titre, c'est A Sky Full of Stars. Ça vous parle?
Non. Et rien ne va nous parler.
C'est Coldplay.
Pareil.
Bah Coldplay c'est quand même un peu plus mythique quoi, mais bon.
Tout le monde les bras en l'air.
Ouais.
Coldplay, A Sky Full of Stars, voilà, top 4. 'Cause you're a sky,
'cause you're a sky full of stars. On fait un guess pour le premier.
Le top 3 déjà. Ah pour le top, mais vous l'aurez jamais. Hein.
C'est sûr.
Franchement, moi j'ai sous les yeux. Il y en a un que vous pouvez avoir, mais. Un gars avec un chapeau.
Like a Hobo.
Non. Non, mais c'est pas même. Je crois que c'est avant. Hein. Like a Hobo, c'est 2008-2010. Ouais,
facile.
Michael
un gars
Jackson.
Avec un chapeau.
Wow. Un gars avec un chapeau.
Crocodile Dundee.
Pharrell.
Ouais, j'allais dire, il faisait partie des Neptunes, mais du coup, c'est un gros indice.
Ouais, bah t'as
Pharrell
vu,
Williams.
J'étais doublé.
Le titre le plus connu de Pharrell Williams.
Le chapeau.
Non.
Happy.
Ouais, Happy. 2014.
Ah bah oui, puisque c'est en même temps que...
J'allais trouver un gars.
bien vu, docteur.
Ça fait quasiment 10 ans, c'est fou quand même.
C'est fou.
Moi, ça me met un bon coup de... Bon coup de vieux quand même.
Bientôt le cerveau.
Moi, ce qui me met un coup de vieux, c'est de me rendre compte que je connais aucune de ces musiques alors que c'était il y a 10 ans. Et que je connais, il faut aller à plus vers 15-20 ans.
Ouais, pareil.
Tu me mets un top 2004, rap français, je dégomme.
T'inquiète, on en fera d'autres.
2006, rap français, il y a moyen que ce soit du sale.
Moi, c'est top 10 France générale. Donc, c'est possible qu'il y ait du rap. Je pense à un Booba ou un truc comme ça. Mais je pense qu'on serait étonné. Hein. Je pense que c'est beaucoup des sons comme ça, hein, comme on vient d'écouter.
Hein. Oui.
C'est beaucoup de sons de radio, c'est les Energy Hit, Summer, machin.
Ouais, mais même les sons de 2000. Du top, ils sont
moi je suis sûr
c'est
que
c'est 50,
je...
c'est tout, mais laisse tomber, ouais, c'est facile de
moi
Black
je connais...
Peas, ouais. Bah oui, facile.
Il nous en manque deux. Impossible à trouver les deux.
Bah dis-nous en un.
Bah je vais vous mettre un extrait.
Ouais, mais un extrait, on va quand même essayer de jouer le jeu.
Ah, je l'ai, c'est Michael Mick Lee, j'ai oublié. Mick Lee.
Milk Kitchens.
Merci.
Waouh.
Merci. Celle-là est pas si nulle.
Non, elle est bien. Après, elle a été reprise.
J'adore cette politesse. Non, c'est bien ça.
Oui, j'aimais bien à l'époque.
Donc, ça, c'est Milky Chance, Stolen Dance. Et enfin, le top 1. Le top 1 paraît impossible à avoir, mais je pense que vous allez capter encore.
C'est sûr. Tout me parlait jusqu'alors.
Tout. Ah oui, bah oui, c'est facile.
Ouais.
Mais j'ai oublié le nom.
Pareil, c'est le genre de truc, personne n'a le nom.
Ouais. Je crois que c'est quand j'appelle Bouygues.
Ah oui. Ah ouais. Oui, c'est une musique de pub encore.
Le nouveau forfait 50 gigas, c'est vraiment ça. C'est une musique de pub quoi. Et ça c'est Lily Wood and the Prick et Robin Schulz.
Ouais, ouais, ouais.
Prayer in Sea, le titre.
OK,
bien vu.
Personne n'a ce genre de truc hein.
Non.
Voilà, c'était le top 10 de l'année 2014. En tout cas, je sais même pas, je crois qu'il y a un point pour Dr Chon. Toi, t'en as eu un aussi, Mickey Chan, je vais quand même te le donner.
Il a eu plein de 0,5, je pense que c'est Pierre qui gagne haut la main avec au moins 3,25.
T'es vraiment un amour, je partage mes points. T'aurais trop été mon ami, on aurait partagé nos pitchs à la récré.
Bah voilà, on arrive sur la fin de cette première émission du podcast. Petit rappel hein, ceux qui nous rejoignent en fin d'émission, on était sur Radio Campus Amiens. Vous aurez je pense plusieurs diffusions au cours du mois. Cette émission sera deux émissions exclusives deux fois par mois, enfin une émission deux fois par mois on va dire, et en rediffusion sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Jawai, J-A-W-A-Y. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, les chroniqueurs ?
Oui, si vous avez une histoire à raconter, quelque chose que vous avez envie de nous dire, vous pouvez nous envoyer un mail à lepodcast@gmail.com et on sera ravis de vous recevoir si on juge que c'est intéressant, parce que vous n'êtes pas tous très intéressants.
Ouais. Si vous avez soit un métier original du type t'es soudeur en haute mer ou un truc comme ça, enfin un métier qui court pas les rues, notre prochain invité ce sera un hypnothérapeute, voilà, pour ça, pour vous donner des idées. Mais si t'as un métier original qui un métier que pas grand monde n'a, ou si t'as vécu une histoire incroyable du type t'as frôlé la mort ou
t'as été enlevé par les vaisseaux de la Vierge Marie,
oui, un truc comme ça, si t'as vécu une histoire assez insolite, n'hésitez pas à nous envoyer un mail.
Tu es né en l'an 587.
Ouais, sur une autre planète, par exemple.
Si vous tu avez es né vécu en un apesanteur.
On va arrêter avec les exemples.
Ouais, les exemples, je pense que les gens
ont. Je pense qu'ils ont capté.
Je vous mets, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mets l'adresse mail du podcast ici et puis dans la description. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo si vous êtes sur YouTube. Ça nous fera le plus grand bien. Posez-nous des questions. Voilà, interagissez avec nous. On répondra avec grand plaisir. Pour ceux qui sont déjà sur YouTube ou ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vous invite à venir voir la chaîne. J'ai sorti récemment une vidéo sur Manu Chao, voilà, où je raconte un peu toute l'histoire de Manu Chao. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir cette vidéo. Et donc pour terminer cette émission, je vais vous balancer un petit son de Manu Chao en clin d'œil à cette dernière vidéo. C'est Machine Gun. Voilà, on se retrouve très bientôt sur les antennes de Radio Campus et sur YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo. La bise, c'était Jawai, Dr Chon et Pierrot.
On vous aime.